gens. Maintenant, lorsque je mentionnais ce matin qu'il fallait que je quitte rapidement, ce n'était pas pour bousculer les habitudes de personne. Puis, n'étouffe pas, je ne parlerai pas plus vite que d'habitude. Vous savez, les livres audio, hein? Je ne sais pas s'il y en a qui écoutent des livres audio, mais on peut les mettre plus vite. Hein? On peut les faire parler à 1,5 fois plus vite. Fait qu'il y en a qui aiment faire ça parce qu'ils écoutent dans moins de temps le livre. Mais je ne ferai pas ça ce matin, je ne me mettrai pas à 1,5 non plus. Merci de votre indulgence dans ces circonstances. Écoute, j'ai à cœur de relire les 18 premiers versets, bien qu'on va se concentrer ce matin sur les versets 10 à 13. Mais lisons quand même l'ensemble des 18 premiers versets, parce que les 18 premiers versets de l'Évangile de Jean, c'est un peu l'introduction que Jean fait du Seigneur Jésus, qui va être l'objet de tout l'Évangile. La raison pourquoi il va écrire tout l'Évangile, donc pour avoir vraiment, comprendre vraiment bien ce qu'on va voir ce matin. Donc Jean 1:1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Ici, c'est Jean-Baptiste, naturellement. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire, comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. » Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Donc, c'est le fun de lire l'Évangile de Jean parce que Jean, il nous dit déjà pourquoi il écrit. Je vous l'avais fait remarquer, mais Jean, à la fin de son Évangile, nous dit qu'il écrit pour que les gens croient dans le Fils de Dieu, puis qu'en croyant à lui, on ait la vie éternelle. Donc, c'est le but pourquoi Jean écrit. Dans le chapitre 1, il introduit son évangile, comme je l'ai dit. Et puis, cette introduction-là, elle est faite par le témoignage de Jean-Baptiste. Hein? Jean-Baptiste, qui est l'envoyé de Dieu, donne le coup d'envoi au ministère du Seigneur Jésus, comme on voit dans tous les autres évangiles. Et son témoignage occupe la majeure partie de l'introduction. Puis, les versets 1 à 18, c'est comme l'introduction de l'introduction. Ce qu'on appelle un prologue, moi j'ai toujours pensé qu'un prologue, tout le monde savait, je ne sais pas si tout le monde sait qu'est-ce que le mot prologue veut dire. La première fois que quelqu'un m'a offert une Bible avec des notes, c'est la Bible Scofield. Je pense que tout le monde est assez connu, la Bible Scofield. Puis dans la Bible Scofield, il y a des entêtes de chapitres, et puis dans l'entête du chapitre 1, les versets 1 à 14, il nomme ça de la manière comme suit. Prologue, la parole éternelle incarnée dans le Fils de Dieu. C'est comme ça qu'il a introduit les 14 premiers versets. Fait que moi, je me suis dit, toutes les Bibles font ça, fait que j'en ai quand même quelques-unes à la maison, puis j'ai commencé à les sortir. Puis non, le mot prologue, je l'ai retrouvé dans une autre Bible que j'ai achetée il y a à peu près une dizaine d'années. Puis cette Bible-là, c'est les 18 premiers versets qui sont les prologues au lieu des 14 premiers versets. Qu'est-ce qu'un prologue? Ben, le petit Robert nous dit qu'un prologue, c'est une partie d'un drame antique qui précède l'entrée du cœur. Aussi, c'est un discours qui introduit une pièce de théâtre. Donc, il y a plusieurs années, je suis allé voir Le malade imaginaire de Molière. C'est intéressant, c'est un, l'histoire d'une personne qui se croit malade. Puis il y a un prologue. Molière a fait un prologue à cette pièce de théâtre-là. Puis il explique pourquoi il écrit la pièce de théâtre. Puis Molière, il dit ceci, il dit, dans le prologue du malade imaginaire, il dit qu'il a écrit cette pièce-là pour, je cite, « délasser », c'est un vieux mot pour dire « détendre », pour délasser le roi de ses nombreux travaux. Maintenant, à cette époque-là, le roi, c'était Louis XIV. Puis Louis XIV avait été faire la guerre en Hollande. Puis là, il revenait de la guerre. Fait que lui, il écrit la pièce de Molière, Le malade imaginaire, pour que le roi, là, il se détende, parce que là, ça, il a été en guerre, puis ça a été stressant. Fait que c'est pour ça qu'il écrit ça. Et naturellement, dans le prologue, lorsque ça commence, il y a des gens, des personnes antiques qui vont s'introduire, comme je vous ai dit tantôt, un chant, puis qui vont chanter à propos de la victoire de Louis XIV dans sa campagne comme, dans l'âme. Un prologue, c'est une introduction. Donc, dans le prologue introductif, puis là, je viens de dire deux fois le même mot, c'est un pléonasme, dans le prologue introductif de son évangile, Jean y introduit le lecteur à la personne centrale de qui écrit, le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, la parole incarnée. Et c'est intéressant ce prologue-là, puis moi, si vous avez remarqué, j'ai fait quatre messages sur le prologue, c'est le troisième qu'on voit ce matin. Mais le premier, quand Jean écrit, dans les quatre premiers versets, bien, il introduit la parole préincarnée. Il nous parle du Seigneur Jésus avant qu'il vienne sur la terre. J'avais intitulé le message « La préincarnation de la parole ». Je me suis trompé, les cinq premiers versets. Puis dans les versets 14 à 18, il va nous parler de la parole incarnée. Hein, il va nous dire que cette parole-là, au verset 14, on l'a lu tout à l'heure, et la parole a été faite chair, donc elle s'est incarnée. Puis ça va être l'objet des versets 14 à 18. Donc, c'est un petit peu plus théologique, ces petites parties-là. Ça nous parle du Seigneur Jésus, tu sais, mais avant qu'il vienne sur la terre, après qu'il vienne sur la terre, tout ça. Puis dans le milieu, il y a un témoignage. La dernière fois, on a vu le témoignage de Jean-Baptiste dans les versets 6 à 9. C'est la proclamation de la parole. La parole, elle est proclamée. Mais comment ce témoignage-là il a été reçu? Comment les gens ont reçu le témoignage? Bien, c'est ça qu'on va voir ce matin dans les versets 10 à 13. Donc, c'est la réception de la parole. Vous avez remarqué, j'ai tout mis des P. Ceux qui remarquent, là, hein, la préincarnation de la parole, les cinq premiers versets, et la proclamation de la parole, versets 6 à 9, la réception de la parole, c'est pas tout des P finalement, c'est une réception, les versets 10 à 13, puis plus tard, on va voir la parole incarné. Mais ça, c'est tout en ce qui concerne la parole. Donc, la parole, qui est la véritable lumière, est venue dans le monde pour éclairer tous les hommes. C'est ça qu'on a vu au verset 9. Elle luit dans les ténèbres, verset 5. Elle luit dans un monde ténébreux. C'est ça qu'on a vu aussi, un monde plongé dans les ténèbres. Et sans la lumière, il n'y a pas de vie. Hein? Elle est la vie, verset 4, c'est-à-dire la vie éternelle. Donc, Jean utilise la vie telle qu'on la connaît, pour la vie physique, pour nous parler de choses concernant la vie spirituelle, hein, la lumière qui luit dans les ténèbres, etc. Mais maintenant, cette lumière-là, comment elle a été reçue dans ce monde-là qu'elle a créé? C'est à cette question-là que l'évangéliste Jean, là je fais attention parce que quand Jean, dans son évangile, on lit le mot Jean, c'est toujours Jean-Baptiste. Jean n'écrit jamais comme les autres Jean-Baptiste. Puis Jean lui-même se nomme jamais. Fait que là, il faut faire attention quand on parle, parce qu'il ne faut pas vous mêliez quel Jean que je parle. Mais l'évangéliste répond à ces versets-là dans ce qu'on va considérer ce matin. Puis la réponse, elle se résume ainsi. La parole a été ignorée, verset 10, puisque le monde ne l'a pas connue. La parole a été rejetée, verset 11, par son peuple, les Juifs, qui ont rejeté le Messie. Mais cependant, la parole a été reçue, les versets 12 et 13. Cette méconnaissance-là, ce rejet-là n'est pas généralisé. Il y en a qui l'ont reçu. La parole ignorée. Bien que la parole était physiquement dans le monde lorsque Jean-Baptiste a commencé son ministère, et bien que Jean le Baptiste ait témoigné à son sujet, Jean, l'évangéliste, nous écrit que le monde ne l'a pas connu. La parole créatrice, la parole qui a créé le monde, ce monde-là qui est sa signature, qui est la signature du Créateur, lorsqu'il est venu dans sa création, Jean nous dit que le monde ne l'a pas connu. Et ici, c'est les êtres humains hein, qui ne l'ont pas connu. Le monde ici, ce n'est pas le monde physique que Jean parle, mais vraiment les personnes, les êtres humains, des êtres humains qui sont capables de réfléchir, qui ont une intelligence, qui sont capables de faire avec, d'arriver à la vérité par leur compréhension. Mais ces gens-là, intelligents que Dieu a créés, n'ont pas connu la parole, ne l'ont pas reconnue. Maintenant, c'est intéressant que Jean dise ça parce que, moi, je me suis dit, mais pourquoi Jean dit ça? Parce que si on regarde l'histoire du christianisme, le christianisme s'est étendu à peu près dans tous les pays du monde. Vous pouvez aller sur Internet, c'est intéressant, puis ils vont vous dire le nombre de gens qui se réclament du christianisme dans tous les pays du monde. C'est variable. Il y a des pays plus christianisés que d'autres, mais ça s'est étendu dans à peu près tous les pays du monde. Ceux qui s'est écrit zéro, là, sont vraiment dans une très grande minorité. Donc, dans un sens, le Seigneur est connu, parce que ça s'est répandu à travers tout le monde. Mais de quoi Jean est-ce qu'il parle lorsqu'il dit que le monde ne l'a pas connu? Vous savez, il s'est écrit beaucoup de choses en ce qui concerne le Seigneur Jésus. Puis moi, lorsque je me suis posé cette question-là, je me suis dit, ah, peut-être que ça, j'aimerais ça lire un livre général de quelqu'un qui a écrit à propos du Seigneur Jésus. Pas nécessairement dans les livres que je suis habitué de lire, là, d'auteurs évangéliques, qu'on est sûr que leur doctrine puis leur enseignement est bon, mais juste d'une manière générale, qu'est-ce qu'on dit du Seigneur Jésus? Fait que c'est encore facile, on va sur Internet, on va sur Google, on tape, puis j'arrive sur un article de journaux. L'article de journal parlait d'un livre, justement, qui s'intitule « L'affaire Jésus » d'Henri Gimelin. Cet homme-là est un critique littéraire, un historien, un conférencier français qui se réclame être catholique. Fait que je dis, ah, ça a l'air intéressant, je vais lire ce livre-là, disponible à la bibliothèque, je ne suis pas obligé de l'acheter. Pas beau, pas tellement long, je pense, une 120 pages. Fait que je lis à propos de ce que lui dit du Seigneur Jésus. Parce qu'il se réclame, lui, connaître le Seigneur Jésus, il écrit. Hein? Il écrit quand même avec un titre intéressant, « L'affaire Jésus ». Fait que je veux prendre juste une petite minute pour vous dire un peu ce qu'il dit, puis vous faire comprendre que puis ça va nous aider, je pense, à comprendre pourquoi Jean a dit que le monde ne l'a pas connu, même si ça s'est répandu à travers le monde. Maintenant, l'auteur donne la raison pourquoi il écrit, puis je cite ce qu'il dit. Il dit « Je persiste à croire et je crois plus que jamais à l'intérêt, à la valeur, à l'importance libératrice de ce qu'enseigna parmi nous le Nazaréen, ici en parlant du Seigneur Jésus. » Fin de la citation. Donc, je trouve ça intéressant. Lui, il dit « C'est important ce qu'a dit le Seigneur Jésus. » Puis, je pense que c'est important. Puis, c'est pour ça que je vous écris ce livre-là. Fait que ça commence bien. J'ai dit « C'est intéressant. Hein? » On est d'accord avec ça, que ce que le Seigneur Jésus a dit est important. Il va dire, bien qu'il reconnaît, et je le cite, je continue à le citer, que le christianisme aujourd'hui rencontre surtout l'indifférence, qu'on ne nous en... Puis là, il paraphrase un peu ce que les gens disent en eux-mêmes, qu'on ne nous ennuie plus avec ces histoires de l'autre monde, l'important est ailleurs. Fin de la citation. Donc, il dit, c'est quand même vrai, tu sais, que c'est important ce qu'il dit, mais c'est quand même vrai aussi que les gens commencent à délaisser ces enseignements-là, puis dire qu'il y a des choses pas mal plus importantes que ça aujourd'hui. Donc, il semble bien cerner l'état du christianisme, puis lui, il écrit en 1984. Et puis, vous êtes d'accord que ça a même empiré depuis ce temps-là. Les gens trouvent qu'il y a des choses pas mal plus importantes. Rien n'a changé. Mais son but est encourageant. Lui, il veut démontrer l'importance de Jésus de Nazareth. Mais ça se gâte par la suite. Ça se gâte lorsqu'on continue à lire. Dans le chapitre 1, il expose l'intérêt, la valeur et l'importance libératrice qu'enseigne le Seigneur Jésus. Mais on découvre vite, lorsqu'on continue à lire, que ce Seigneur Jésus-là, c'est celui qui s'est fait lui-même. C'est son Seigneur Jésus. Vous allez le voir. Écoutez ce qui est écrit. Il dit, puisqu'un être concret se trouve à l'origine du christianisme, en parlant du Seigneur Jésus, il importe donc, semble-t-il, de savoir à quoi nous en tenir quant aux faits et gestes, aux actes et aux paroles de ce, là, il écrit Jésus, réputé Christos, Jésus le Christos, ou Jésus-Christ, c'est ce qu'il veut dire. Mais lui, il va dire « devenu Jésus-Christ ». Ah, mais qu'est-ce qu'il dit, là? Fin de la citation ici. Lui, il dit que ce Jésus-là, il est devenu, à un moment donné, Jésus-Christ. Ah! Mais moi, je me suis dit, c'est la parole incarnée, il sait pourquoi il est venu. Il n'est pas devenu, il est, il était, il est, encore aujourd'hui, la parole incarnée. Et il fait des affirmations qu'il soutient par des textes isolés. Il va quand même citer les évangiles. Il fait des citations avec des textes isolés. Puis c'est là que ça la chope dans ses citations. Il va dire, entre autres, je vous cite ce qu'il dit. « Jésus semble bien avoir pris conscience que graduellement de sa mission universelle. » Fin de la citation. Fait que lui, ce qu'il est en train de dire, c'est que Mani a réalisé pourquoi il était arrivé sur la terre. Il me semble qu'il l'a toujours su. En maintenant, il a été petit enfant, quand c'est qu'il a, tu sais, je veux dire, comme enfant, comment il était, je veux dire, on ne peut que spéculer. Mais à 12 ans, on sait qu'il savait pourquoi il était là. Il l'a dit à ses parents. Lorsque Jésus vient vers Jean-Baptiste pour être baptisé, voici ce que lui écrit de ce moment-là. Il dit, je cite, « Jésus va l'écouter. » Il va écouter Jean-Baptiste, se faire lui-même baptiser et se retirer à son tour quelque temps dans la solitude où il décide de ne plus reprendre sa vie paisible de charpentier. Fin de la citation. Donc lui, c'est toujours ça, là, tu sais, le Seigneur se découvre. Puis là, quand Jean-Baptiste le baptise, là, il dit « Ah, je ne retournerai pas à mon ancien travail. » Mais pourtant, Jean, l'évangéliste, il témoigne que Jésus, en Jean 6, 38, a dit ceci, « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Il sait pourquoi il est là. Il n'a pas finalement, après être baptisé, découvert qui il était, puis décidé, « Voici ma vocation, puis voici où est-ce que je vais. » On comprend, à la lecture des évangiles, que le Seigneur Jésus savait qui il était, pourquoi il était venu sur la terre parmi nous, il connaissait sa mission. Maintenant, l'auteur, il réduit le Seigneur Jésus à un simple homme. C'est ça qui fait qu'il se découvre. Et même, lorsqu'on lit le livre, même qu'à quelques occasions, ses disciples vont être obligés de reprendre. Intéressant. Dans le dernier chapitre du livre, c'est là qu'il nous révèle, je cite comment il l'exprime, la grande révélation, divulgation qu'apportait le Nazaréen. Fin de la citation. Donc, lui, ce qui est écrit, c'est « Seigneur Jésus est venu révéler des choses, divulguer des choses, grandiose. » Puis pour appuyer ce qu'il dit, il va citer Luc 17, 21, puis il va nous faire son exégèse, autrement dit, son interprétation de ces versets-là. Qu'est-ce que dit Luc 17, 21? Ça dit ceci, « Car le royaume des cieux est au milieu de vous. » Puis lui, il va dire qu'on devrait plutôt traduire comme ceci. Et je le cite, « Car le royaume des cieux est au-dedans de vous. » Donc, c'est ce qu'il dit, c'est qu'on devrait lire ce verset-là. Et il va dire, et je cite, je continue à le citer, « Le Nazaréen nous enseignait que ce royaume non seulement nous habite, mais nous constitue, que nous sommes participants de l'infini, abouché. » Ça, c'est un mot qui veut dire « mis bout à bout. » « Abouché à l'infini. » Que notre identité foncière n'est pas autre chose que la présence en nous, incomplète et suscitatoire, ça veut dire en devenir, là, il utilise des grands mots, là, mais ça veut dire en devenir, du royaume. Fin de la citation. Donc, comme tout bon penseur, il écrit pour qu'on comprenne sans nécessairement, pas toujours facile de comprendre, mais ce que je comprends de ce qu'il dit, de ce que j'ai compris après la lecture du livre, et le message que je retire, c'est que ce Jésus, ce simple homme qui s'est découvert, a un message extraordinaire. Le point culminant de ce message, c'est que tous les hommes ont l'infini, pour ne pas dire Dieu en eux. Donc, voici l'affaire Jésus. Voici comment il présente ce Jésus-là. Donc, on retombe dans le mensonge du serpent dans Genèse 1. Hein? Vous serez comme des dieux. Parce que c'est ça qui presque dit hein? Qu'on est des dieux, ou tout le moins qu'on est attaché à Dieu, qu'on fait partie de lui. Puis lorsqu'on lit un livre comme ça, puis on se pose la question, est-ce que le monde a connu le Seigneur Jésus? Bien, la réponse, c'est non. Ils n'ont pas connu le Seigneur Jésus comme lui s'est révélé. Ils ont connu le Seigneur Jésus comme eux se l'ont défini. Et certains vont ignorer Dieu et affirmer qu'il n'existe pas. D'autres vont réduire Dieu à notre niveau. C'est un peu ce que lui fait, là. Où ils vont s'élever au niveau de Dieu. Hein? Et ce qui est la folie extrême, c'est de se déclarer être un Dieu. C'est comme ça les mondes vont faire. Et lorsque j'ai fini de lire ce livre-là, j'ai dit à Jean, tu as raison, Jean. Le monde ne l'a pas connu. Le monde ne l'a pas connu tel qu'il s'est révélé. Le monde ne font que se faire leur propre Jésus à leur sauce, à leur manière de voir, à ce qu'ils aiment eux entendre et recevoir. Et c'est exactement ce que Paul va dire dans Romains 1, versets 19 à 21. Puis je vais vous le citer en faisant des petits commentaires, parce que après la lecture de ce livre-là, il me semble que Romains 1, 9, 19 à 21 a pris toute une saveur. Parce que Paul va écrire, « Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour tous, Dieu le leur ayant fait connaître. Comment? En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. » Ce que Paul dit ici, c'est que la création est la signature de Dieu. On voit sa puissance, on voit sa divinité. Donc, les gens ne peuvent pas se donner d'excuses. Et Paul va continuer en disant, « Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne l'ont point accepté comme il s'est révélé. » Je continue à lire Paul. « Et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés. » Donc, Paul est en train de dire à M. Hamelin, « Vous vous êtes égaré lorsque vous avez écrit votre livre. » Ils se sont égarés dans leurs pensées et leurs cœurs sans intelligence ont été plongés dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Donc, c'est le verdict de Paul sur le livre de M. Gimelin, l'affaire Jésus. Puis là, on se pose la question, mais Jean, si le monde n'a pas connu Seigneur Jésus, mais comment devrait-il connaître Dieu? Mais c'est ce que Jean répond dans son évangile. C'est exactement pourquoi il a écrit, c'est pour le faire connaître. Pour faire connaître comment le Seigneur Jésus s'est révélé lui-même à nous. Et Jean va le faire comme un témoin, parce que lui, il a marché que le Seigneur Jésus est capable de parler de lui. Et c'est exactement ce qu'il fait plus précisément dans son prologue. Il veut qu'on ait une vraie image de qui est le Seigneur Jésus avant de commencer d'écrire sur ce qu'a été son ministère, puis démontrer comment il a été effectivement le Messie en qui on doit croire pour avoir la vie éternelle. Et vous savez, je pense que pour le croyant, il n'y a pas de plus grande joie, de plus grands intérêts. Il n'y a rien qui réchauffe plus le cœur que de faire ses délices, de faire sa joie, de connaître la personne du Seigneur Jésus comme sauveur et de le connaître comment il s'est révélé. Et de faire attention que nous non plus, on ne se fait pas un petit Jésus, mais qu'on le lit dans sa parole, puis qu'on le médite dans sa parole, puis qu'on apprend à le connaître tel qu'il s'est révélé. Mais malheureusement, le monde ne l'a pas connu tel qu'il s'est révélé, même si certains prétendent le connaître, ils ne le connaissent pas. Et malheureusement, encore aujourd'hui, le monde ne le connaît pas de la manière qu'il s'est révélé. Pas seulement il ne le connaît pas, mais il le méprise, il le rejette, il s'en moque. Ou tout simplement dit qu'il n'existe pas. Donc, le monde ne l'a pas connu, la parole n'a pas été connue. La parole a été aussi rejeté au verset 11. Lorsque la parole est venue dans le monde, vous savez, lorsque le Seigneur Jésus est venu dans le monde, il n'est pas venu comme un étranger, il est venu chez lui. Hein? Il est venu chez elle.
Sa création. Dans un sens, c'est chez lui. Darby va traduire qu'il est venu chez soi. Mais plus particulièrement, il est venu chez les siens, chez les Juifs, chez le peuple juif, le peuple que Dieu s'est choisi. Et vous savez, Seigneur Jésus a, un peu comme Jean-Baptiste, a eu un court ministère. Hein? On pense, on évalue la période du ministère du Seigneur Jésus parce que, justement, Jean, dans son évangile, fait la mention de trois pas. Donc, s'il commence à la première puis finit à la dernière, ça dure 2 ans, son ministère, à la limite 3, au maximum 4. Tout le monde s'entend pour dire que le Seigneur Jésus a un ministère d'à peu près 3 ans. C'est pas quand même long, un ministère de 3 ans pour l'impact quand même que le christianisme a eu. Mais lorsque le Seigneur Jésus a eu ce ministère de 3 ans, là, c'était auprès des Juifs. Lorsqu'une femme cananéenne qui vient auprès du Seigneur Jésus pour qu'il délivre sa fille qui est tourmentée par un démon, il lui répond « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Même s'il y a eu un court ministère, le Seigneur Jésus est venu vers son peuple. Son ministère était auprès des Juifs. Lorsqu'il envoie les 12 prêcher leur royaume puis guérir les malades, il leur donne l'instruction suivante « N'allez pas vers les païens, et n'entrez pas dans les villes des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. » Et dans sa deuxième prédication dans le livre des Actes, Pierre, il va dire ça aux Juifs. Hein? « C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur en parlant du Seigneur Jésus, l'a envoyé. » Donc, il est venu chez les siens et il a exercé son ministère chez les siens. Le Seigneur Jésus, à 2 exceptions près, qu'on lit dans les évangiles, a toujours exercé son ministère la majorité du temps en Galilée et aussi une bonne partie de son temps en Judée. Les 2 exceptions, je peux vous les donner. Lorsqu'il voyage entre la Galilée et la Judée, il faut passer à travers la Samarie. Et la majorité des Juifs, sinon tous les Juifs ne font jamais ça, ils traversent le Jourdain, puis ils passent à côté, puis ils reviennent en Galilée. Le Seigneur Jésus a passé à travers la Samarie. Bon, on va le voir dans Jean 4, il parle à la femme samaritaine. Et aussi, on sait qu'il fait une incursion dans un pays païen, la région de Tyr et de Sidon, probablement pour se reposer puis se relaxer un peu parce que les Juifs religieux mettent de la pression sur lui. Mais sauf ces 2 exceptions-là qu'on voit dans les évangiles, le Seigneur Jésus est venu auprès des siens. Puis Jean va nous dire, mais les siens ne l'ont point reçu. Certains vont traduire, les siens ne l'ont point accueilli. Mais ça, c'est pas rendre justice à ce que Jean écrit. Des fois, on accueille même des étrangers. Hein, une personne qu'on connaît pas, des fois, on va l'accueillir parce que, tu sais, c'est une question de protocole et de gentillesse. Mais les Juifs n'ont même pas fait ça. Les Juifs qui auraient dû connaître le Messie ne l'ont pas accueilli. Ils n'ont même pas reçu. Ils auraient dû le recevoir parce que, justement, Dieu s'est particulièrement révélé à eux. Et comme peuple, ultimement, ils l'ont rejeté quand? Lorsqu'on dit à Pilate, crucifie-le, crucifie-le. Et lorsqu'on lit les Actes, c'est intéressant parce que même l'Évangile, lorsqu'elle a commencé à prêcher, elle était prêchée principalement aux Juifs. Dans Actes 13, on lit que Paul et Barnabas sont arrivés à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils prêchaient l'Évangile dans la synagogue. C'est un succès lorsqu'ils prêchent l'Évangile dans la synagogue. Et puis, la semaine d'après, il n'y a pas juste les Juifs qui viennent, mais quasiment toute la ville vient. Mais dans Actes 45, c'est écrit que les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie. Ils s'opposèrent à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Malgré que Paul et Barnabas vont aller chez les Juifs annoncer l'Évangile, c'est la même réception. on s'oppose à lui, puis on le contredit, puis on l'injure. Dans Actes 13, 46, on lit Paul et Barnabas leur dire avec assurance, « C'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. » Même l'Évangile. Puis Paul va leur dire, « C'est à vous, premièrement, mais vous... Écoutez pas, on va se tourner vers les païens. » Puis c'est exactement ce qu'on lit dans la fin du livre des Actes. Hein. Paul est emmené à Rome, est emprisonné en cause qui, justement, les Juifs veulent le mettre à mort. Il demande à être jugé par César, puis c'est pour ça qu'on l'amène à Rome. Lorsqu'il arrive à Rome, au lieu de le mettre en prison, on l'assigne à résidence sous surveillance. Il ne peut pas sortir, on le surveille, mais il peut recevoir des gens. Puis il va faire venir les Juifs de Rome pour expliquer pourquoi il est là. Et puis, il va leur annoncer l'Évangile, mais ils vont être en désaccord. Ils n'accepteront pas ce que Paul leur dit. Et voici ce que Paul leur dit. Il dit, « C'est ce qu'Isaïe avait prophétisé sous l'inspiration du Saint-Esprit, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux. Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens et qu'ils l'écouteront. » Vous savez, ça clôt le livre des Actes. Donc, c'est comme Dieu dit au peuple, « Vous ne m'avez pas reçu. Maintenant, l'Évangile, on va se tourner vers les païens. » Mais il faut quand même dire que ce n'est pas la destinée finale des Juifs. Ce n'est pas comme si Dieu a mis son peuple de côté pour tout le temps. Paul, dans Romains 9 à 11, fait un beau plaidoyer pour ceux de sa nation. Puis en Romains 11, 25, regardez ce qu'il dit, « Car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à quoi? Jusqu'à quoi? Jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et qu'est-ce qui va arriver par la suite? Bien, continue au verset 26. Et ainsi tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les iniquités. Donc, ce n'est pas que Dieu a rejeté son peuple parce que son peuple a rejeté le Seigneur Jésus pour tout le temps. Les Juifs vont se tourner, puis c'est exactement ce que Jean écrit dans son Évangile. Hein. Les Juifs vont se tourner vers le Seigneur Jésus et ils verront celui qu'ils ont percé. Ils vont un jour se tourner vers le Seigneur Jésus. Ils vont voir celui qu'ils ont percé. Donc, on peut penser que Jean nous dépeint une situation désespérée. Hein. La parole n'a été ni connue dans le monde, ni reçue des siens. Mais ce n'est pas le mot de la fin. Il continue au verset 12 et 13, il nous dit que la parole, quand même, elle a été reçue. J'aime bien ce qu'un commentateur que je lis tout le temps et que j'apprécie énormément, Carson, va écrire ceci, et je cite, « Considérés isolément, les versets 10 et 11 paraissent bien sombres, mais les versets 12 et 13 viennent immédiatement atténuer l'idée du rejet général de la parole en indiquant que, comme à l'époque de l'Ancien Testament, il suscite un reste fidèle. » Fin de la citation. Donc, au verset 12, c'est écrit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. » Et ceux qui l'ont reçu, finalement, c'est ceux qui croient en son nom. Hein. Et son nom, c'est l'expression de sa personne. Lorsqu'on lit ça dans les Évangiles, le nom du Seigneur Jésus, c'est l'expression de qui il est. C'est la parfaite révélation de son caractère, c'est l'expression de son essence, c'est-à-dire qu'il est divin, c'est la révélation de sa personne. Hein? Ce n'est pas juste un nom. Non, ça nous dit qui il est vraiment. C'est ça, croire en son nom. Qu'est-ce qu'il fait à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom? Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et c'est la première fois ici que dans son prologue, Jean y introduit le thème de la nouvelle naissance. Il en a fait allusion au verset 4, lorsqu'il a écrit « En elle, en parlant de la parole, était la vie. Hein? » Ici, il parlait de la vie éternelle. C'est le thème de l'Évangile, c'est le thème de la bonne nouvelle, c'est le but ultime pourquoi Jean écrit. Hein? Qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Alors, on autrement dit, en qui Dieu est, en la personne qu'il est. Maintenant, remarquez qu'il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est le pouvoir de Dieu. Et dans son évangile, Jean va nous montrer que le Seigneur Jésus a le pouvoir sur le naturel et sur le surnaturel aussi par ses miracles. Et va nous montrer que le Seigneur Jésus a tous les pouvoirs. Quand Pilate il dit au Seigneur Jésus, « Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier, que j'ai le pouvoir de te relâcher? » Il répond quoi? « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Parlant de sa propre mort dans Jean 10, au verset 17 et 18, il va dire, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, personne, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai le pouvoir de la reprendre. » C'est toujours le pouvoir de Dieu. Puis écoutez ce qu'il dit dans sa prière en Jean 17, au début de sa prière en Jean 17, le Père, il va prier de cette manière-là, « Père, l'heure est venue. » Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair afin qu'il accorde la vie éternelle à ceux qu'il a, que tu m'as donné. C'est le pouvoir de Dieu, c'est le pouvoir que le Père a donné au Fils de donner la vie éternelle. Donc, ce pouvoir-là nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, c'est-à-dire d'obtenir le statut d'enfant de Dieu. Encore là, j'aime beaucoup lire Darby, puis il a traduit ce verset-là de cette manière-là. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être enfant de Dieu, à savoir ceux qui croient en son nom. Bon, il y en a qui traduisent pour, prérogative, il y en a qui traduisent être fait enfant de Dieu, ou le privilège d'être enfant de Dieu. Mais tout ça vient de Dieu. Vous savez, lorsqu'on considère notre salut, réalisons toujours que c'est une grâce que le Seigneur Jésus nous a faite, puis que ça vient de lui, puis qu'on n'a rien à faire là-dedans. Donc, ce que Jean nous dit ici, ce qu'il nous affirme, c'est que la nouvelle naissance est un acte divin. Et il va en parler beaucoup plus dans Jean 3, lorsqu'il va avoir ce discours-là avec Nicodème, hein, de toute cette question de nouvelle naissance-là. Donc, je vais faire attention, il y en a qui disent qu'on peut passer tellement de temps dans le prologue que quand on arrive dans le restant de l'évangile de Jean, on n'a plus rien à dire, mais je vais me contenter juste à ce que Jean nous dit ici, qu'elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et c'est ce que John Newton a écrit dans son cantique, hein, dans son hymne, peut-être l'hymne le plus connu dans le monde, à travers le monde, hein, « Grâce infinie ». Qu'est-ce qu'on chante? « Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé ». Lui-même reconnaissait que c'était Dieu qui l'avait sauvé. Il savait que c'était par la puissance de Dieu. Rapidement, dans le restant du passage, Jean va préciser que la nouvelle naissance, ce n'est pas quelque chose de naturel. Parce qu'il va écrire « Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. » Autrement dit, « non du sang » fait référence à Lévite 17:11, car la vie de la chair et dans le sang. Donc, ce n'est pas une naissance physique, la nouvelle naissance. Ce n'est pas une naissance naturelle. Ce n'est pas une naissance aussi à cause de la descendance. Hein. Des fois, on utilise le terme, hein, ils sont du même sang parce que c'est de la même famille. Mais ce n'est pas ça non plus. Ce n'est pas parce que, j'ose le dire, qu'on est dans une famille chrétienne, évangélique, née de nouveau, que ça fait automatiquement de nous des enfants de Dieu. Ce n'est pas par le sang. C'est ça que Jean nous dit ici, puis je pense que c'est important qu'il dise aux Juifs, parce que les Juifs croyaient, tu sais, qu'ils étaient la descendance d'Abraham. C'est ni par la volonté de la chair, c'est pas une décision humaine, hein? C'est pas non plus une décision humaine comme dans un couple qui un jour décide, on aimerait ça avoir un enfant. Ce n'est pas ni la volonté de la chair, ni la volonté de l'homme. Ici, l'homme, c'est Aner, c'est le mâle, l'époux. Ce n'est pas l'initiative ou la volonté d'un homme ou de l'homme. Donc, on conclut que la nouvelle naissance est autre chose que la naissance naturelle. Et bien que l'homme soit né physiquement, il doit aussi naître spirituellement. Et Jean, il affirme aussi qu'on... Okay. Jean aussi, il nous dit que même si on doit notre naissance physique à la volonté de l'homme, on doit reconnaître qu'on doit notre naissance spirituelle à la puissance de Dieu. Vous savez, lorsqu'on est né physiquement, là, je veux dire, on n'a rien fait. On est né, il veut dire, maintenant nos parents ont décidé, on veut avoir un enfant, puis on aimerait ça avoir des enfants dans notre famille, puis on n'a rien fait. Hein? On n'avait rien à faire dans notre naissance physique. Puis Jean fait un petit peu le parallèle, hein? Il nous dit ici, dans notre naissance spirituelle, ben, on n'a pas non plus à faire grand-chose, c'est la puissance de Dieu. Il leur a donné le pouvoir, le privilège d'être enfants de Dieu. Lesquels sont nés de qui? Lesquels sont nés de Dieu. Maintenant, on fait juste qu'effleurer le sujet de la nouvelle naissance. Là, on en a mentionné juste un petit peu. Je veux dire, quand on étudie sérieusement l'Évangile de Jean, on ne peut pas passer à côté de cet aspect-là. Puis principalement, comme je vous l'ai dit, dans Jean 3, avec l'entretien de Nicodème. Donc, c'est quelque chose qui, Dieu voulant, on reviendra dessus, sur ce sujet-là. Mais c'est quand même important de réaliser qu'est-ce que ça a impliqué notre nouvelle naissance. Parce que Paul va écrire dans Colossiens 2:6, « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui. » Et je trouve ça intéressant, c'est que Paul est en train ici de dire votre marche chrétienne doit être le reflet de votre nouvelle naissance. Comme vous avez reçu le Seigneur Jésus. Puis Paul les encourage dans leur marche chrétienne, dans leur vie chrétienne, et pour les encourager, il les ramène à leur salut en Jésus-Christ. Et ça m'a fait comme conclure que si je peux reconnaître aujourd'hui que je suis enfant de Dieu, puis je reconnais que ce que Jean m'a dit ici, que c'est par la volonté de Dieu, c'est par sa puissance, comment est-ce que je vais marcher dans ma vie chrétienne de la même manière? Sous la dépendance de Dieu, sous sa puissance, sur son aide, sur son appui, sur lui et non sur moi. Et ça m'a fait penser aussi, voici la raison pourquoi on doit désirer connaître le Seigneur Jésus. Puis Pierre le dit bien dans sa deuxième épître, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Donc cet aspect-là de vouloir connaître qui est Christ vraiment comme il est, n'a pas seulement la répercussion sur notre salut, puis sur le but que Jean pour lequel écrit, mais aussi une répercussion sur notre marche chrétienne. Moi, j'en suis pleinement convaincu. Plus on apprendra à connaître Seigneur Jésus, plus on apprendra à se dépendre de lui, plus on apprendra aussi à marcher comme humain, à marcher, mais... Puis encore là, ce que Jean nous dit, c'est qu'est-ce que Seigneur Jésus est venu faire? Il dit, je suis venu simplement accomplir la volonté de mon Père. Donc, apprenons à le connaître tel qu'il s'est révélé. C'est ça qui est important. Je pense que je veux qu'on retienne ce matin, apprenons à le connaître tel qu'il s'est révélé, parce que c'est tellement facile, puis la majorité des gens le font. Ils le connaissent de la manière qu'ils veulent le concevoir. Mais il s'est révélé. Puis on a sa parole, puis on a l'Évangile de Jean aussi. Prions. Seigneur, on est vraiment reconnaissant de ta parole. Merci pour le fait que tu as inspiré ces auteurs à écrire. Puis particulièrement ce matin, on est reconnaissant de ce que tu as inspiré Jean pour écrire son évangile tardivement dans sa vie, mais il l'a quand même fait, et puis qu'il nous révèle vraiment la personne de ton fils d'une manière grandiose et fantastique. Merci pour même ce prologue qui en dit beaucoup, et que dans nos cœurs, on puisse vraiment avoir ce même désir-là que Paul exhortait les Colossiens de croître dans la connaissance du Seigneur Jésus. Amen.
Amen. Amen.